Merci beaucoup de l'invitation. Merci à Daniel et merci au Créum de m'offrir la possibilité de parler aujourd'hui. C'était très enrichissant et très excitant de pouvoir participer à toutes ces conférences. Et oui, c'est honorant pour moi, je dois dire. Donc, le problème qui me préoccupe, c'est celui de savoir si la ville favorise la démocratie. Donc, l'enjeu de cette question, c'est qu'effectivement, on assiste aujourd'hui dans les sociétés contemporaines à une désolidarisation des populations de l'État-nation, ou ce qu'on a appelé une crise de l'État. Et on voit se développer des discours et des pratiques en faveur de la démocratie participative. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est, bon, comme on a parlé, je regarde tout à l'heure, c'est la globalisation qui donne un poids de plus en plus prestant aux villes, un poids économique et politique. Donc qui favorise la ville par rapport à l'État. Bon, voilà. Je ne rentre pas dans le détail de ces questions-là, mais c'est juste pour situer un peu pourquoi est-ce que je me suis posé cette question de savoir si la ville favorise la démocratie ou pas. Ou serait un contrepoids démocratique face à l'État-nation. Donc face à cette question, on a deux grandes réponses. Premier type de réponse, c'est de dire que non, la ville ne favorise pas la démocratie, au contraire, agit contre la démocratie. Donc, on constate en effet que les inégalités sociales et économiques se reflètent dans la ville et que la ville crée par sa propre dynamique des exclusions et des inégalités. Donc, c'est ce que, par exemple, Margaret Kahn a parlé hier de la gentrification. Voilà, un processus, par exemple, d'exclusion des classes les plus pauvres des centres-villes. Donc, voilà. Deuxièmement, on assiste à un mouvement de rejet de l'autre, une peur contemporaine de l'étranger. C'est ce qui a été analysé par Susan Bickford, qui donc voit dans le phénomène des « gate communities » le fait que les populations les plus favorisées se regroupent dans des quartiers aux frontières bien fermées, une peur de l'autre, de la figure de l'autre et de l'étranger, et une volonté de se retrouver entre soi dans des zones homogènes, où la population est homogène. Donc, on a ces deux types de réponses qui vont dans le sens que la ville ne favorise pas la démocratie. On a aussi Monsieur King qui a donc démontré que les programmes pour renforcer l'économie au sein des quartiers les plus défavorisés ou pour donner un droit d'expression aux populations de ces quartiers finalement sont voués à l'échec. Voilà, et renforce en fait les processus de stigmatisation et d'exclusion spatiale et sociale. Donc face à ce type de réponse, on a l'autre type de réponse qui est de dire que non, la ville serait un idéal de démocratie. Donc je vais passer vite là, mais on a toute la théorie des utopistes et qui reprennent l'idéal de la cité-État de Athènes, etc. Bon. Mais on se rend compte que la ville contemporaine échappe au contrôle économique et social, échappe à ces formes d'utopie, puisque justement elle crée par sa propre dynamique des exclusions, etc. Donc bon, ce ne serait pas vraiment un type de réponse qu'on pourrait apporter en faveur de la démocratie en ville. Bon. La voie que je vais explorer, c'est celle de Jung, Iris Marion Jung, qui donc voit dans la ville un idéal normatif. Donc selon elle, je ne rentre pas dans les détails de sa théorie, mais bon, je vais en dire un peu l'essentiel. Selon elle, la ville est un lieu de rencontre de la différence. Quand je parle de rencontre, j'entends plutôt l'idée de côtoiement de la différence. En effet, les conditions de vie imposées par la ville obligent les individus à être en contact sans entretenir des relations intimes, à être en contact tout en restant anonymes et tout en gardant leurs caractéristiques identitaires qui les différencient les uns par rapport aux autres. Donc, pour Jung, effectivement, le problème que devrait régler la politique, c'est celui de savoir comment est-ce qu'on peut faire cohabiter des différences. Comment est-ce que ces différences-là peuvent vivre ensemble. Et elle voit justement dans la politique de la différence une nouvelle voie pour les théories de la justice qui mérite d'être étudiées. Donc, la ville est le lieu de côtoiement de la différence. Et c'est en cela qu'on peut dire que, enfin, qu'elle peut dire que la vie urbaine a des vertus. Je vais me porter vraiment attention sur trois de ces, parmi les quatre vertus que Jung cite. La première vertu, c'est celle d'instaurer une différenciation sociale sans exclusion. C'est-à-dire que la différence sociale est perçue au sein de l'interaction, mais finalement, il ne va pas y avoir d'exclusion des différences. Au contraire, on assiste à une... Enfin, on assiste pas vraiment, mais dans cette théorie idéale, il y aurait une égalité des droits d'usage et d'accessibilité à l'espace urbain et notamment à l'espace public. Ce qui fait que les différences ne s'excluent pas mutuellement, mais au contraire, doivent cohabiter. Ensuite, la deuxième vertu, c'est celle de favoriser une variété des usages de l'espace. Donc la ville, par la diversité des populations et des intérêts des individus qui vivent en ville, offre une variété d'usages de l'espace, ce qui permet une hétérogénéité, une mixité des populations. Et la troisième vertu, c'est celle de rendre public ces échanges. C'est-à-dire que, et là on rentre vraiment dans le rôle essentiel de l'espace public en ville. C'est-à-dire que cette interaction des différences, qui se fait donc sans exclusion, etc., est rendue visible à la ville, est rendue publique, et ne se fait pas du coup dans le domaine privé. Donc l'espace public, c'est un espace qui est accessible à tous, où chacun peut participer, agir et s'exprimer, qui rend donc visible la différence et la diversité. Donc, ce n'est pas un lieu appréhendé en termes d'appartenance. Au contraire, c'est un lieu ouvert à l'interaction des différences. Et c'est en cela que l'espace public pourrait effectivement favoriser la démocratie. Je vais expliquer dans quel sens. Mon idée, c'est de dire qu'à partir de cette théorie de Jung, on peut comprendre l'interaction qui s'effectue au sein de l'espace public comme une interaction démocratique. Ces vertus, donc les vertus dont Jung parle, finalement seraient des vertus démocratiques dans le sens où elles permettraient aux citadins d'accéder à un sentiment démocratique, à un sentiment citoyen. C'est l'idée que finalement la démocratie est un phénomène social qui est présent dans les formes matérielles, mais aussi les plus intellectuelles de la société. Donc la démocratie se nourrit en effet du conflit avec la différence, du conflit des points de vue, et la ville serait justement la matérialisation de ce conflit, de cette interaction entre des différences, qui, justement, essaient d'établir les normes de leur vivre ensemble. Donc, finalement, on voit qu'à la ville, l'expérience de l'anonymat, puisque chaque individu garde son anonymat, garde ses caractéristiques identitaires, l'expérience de l'anonymat permet à chacun de conserver ses caractéristiques et ce qui fait sa différence par rapport aux autres. Sous le prisme d'une égalité d'usage de l'espace public. Bon, voilà, je passe parce que je ne veux pas avoir le temps sinon. Donc cette expérience de l'autre comme différent et de soi comme anonyme parmi ces différences est rendue publique au sein de l'espace public. Donc le fait que cette expérience se joue sur des scènes ouvertes donne à voir le contact avec la pluralité. Donc finalement... 5 minutes. Ok. Donc, voilà, on a un sentiment citoyen, un sentiment démocratique qui s'effectue dans l'expérience que l'individu fait de l'espace public. Ici, je conçois la démocratie comme un phénomène global. C'est justement ce qu'il n'y avait pas dans mon papier et ce sur quoi j'ai travaillé depuis. Et effectivement, je pense que c'est important de préciser quelle conception j'ai de la démocratie ici. C'est la conception qui émane de Tocqueville et plus précisément l'interprétation phénoménologique qu'en fait Claude Lefort. Donc, Claude Lefort voit chez Tocqueville la première pierre d'une conception phénoménologique du politique, dans le sens où le politique n'est pas seulement entendu comme l'ensemble des formes et des pratiques institutionnalisées dans l'exercice du pouvoir, mais comme les principes générateurs de la société. Et donc, finalement, le politique engloberait à la fois le gouvernement, les structures administratives, sociales, économiques, et les opinions, les sentiments et l'imaginaire collectif et individuel. Donc la démocratie, de ce point de vue-là, la démocratie est une réalité, une forme de société qui s'oppose justement à la société aristocratique de l'Ancien Régime. Donc dans ce sens-là, elle se tient dans toute l'épaisseur de la société, à la fois dans ses formes matérielles comme dans les formes les plus intellectuelles. Donc c'est à partir de cette conception de Claude Lefort, qui s'inspire de Tocqueville, qu'on peut dire que la démocratie comme phénomène global peut vraiment être un fait qui s'expérimente au sein de la ville. L'expérience de l'espace, finalement, permet aux citadins d'acquérir des connaissances et des savoirs politiques. Là, je m'appuie sur Isaac Joseph, qui montre que la vision de la ville n'est pas neutre, que marcher dans la rue, traverser une place publique ou prendre le métro, finalement, tous ces éléments les plus anodins nous permettent de recevoir des signes et des sens qui sont normatifs et qui nous obligent à décomposer ces sens pour en créer un savoir propre. Et ce savoir propre, c'est ce que j'essaye de démontrer, c'est un savoir politique et un savoir démocratique plus qu'un savoir civil. Merci. L'expérience sensible de l'espace public est un complexe de sens qui se transforme en compétence démocratique. Donc finalement, cette théorie-là peut aboutir sur une théorie urbanistique, savoir que il faudrait justement agir sur les espaces publics dans cette visée-là, afin de favoriser le sentiment démocratique. Donc une réflexion s'impose sur la manière de mettre en valeur ces vertus démocratiques dans les espaces publics. Et je pense deux principes devraient guider l'urbanisme à ce sujet-là. Premier principe, ce serait de favoriser l'accessibilité. Donc l'accessibilité par les moyens de communication, les transports, l'ouverture à la variété d'usages de l'espace public, l'ouverture au rassemblement, à la fois rassemblement politique, mais aussi rassemblement lors de manifestations culturelles, sportives, etc. Donc premier principe. Deuxième principe, ce serait favoriser l'anonymat. Donc l'anonymat qui permet à chacun de garder ses caractéristiques identitaires, de les afficher, de les rendre visibles dans l'espace public, tout en ayant une interaction avec la différence, avec l'autre différent de soi. Donc, en conclusion, je dirais que, pour résumer, il faut penser la relation entre étrangers et le contact public avec la différence comme un problème de démocratie. Et l'interaction sociale, finalement, l'interaction entre les individus dans l'espace public n'est pas seulement normée par des principes de civilité, comme le respect, etc., mais est aussi normée par des principes et des conceptions de la démocratie. Donc on a comme une relation de causalité réciproque entre la civilité et la citoyenneté. Donc je pense qu'une telle réflexion devrait être prise en compte en urbanisme et qu'elle elle est d'autant plus importante qu'elle permettrait aux citadins d'acquérir des compétences démocratiques et de garder un esprit subversif au sein de la ville.
Merci, très intéressant. Et là, je suis vraiment très curieux d'entendre davantage à propos du deuxième principe. Qu'est-ce que ça signifie favoriser l'anonymat en ville?
Mais ce serait favoriser déjà une mixité. En fait, les deux principes, finalement, sont complémentaires, enfin, vont ensemble. Ça serait favoriser une mixité des populations, parce que, bon, ça a été pas mal démontré, mais l'hétérogénéité des populations, la mixité des populations permet justement d'être confronté à toute une série d'identités qui sont différentes. Et par cette relation à la différence, l'individu peut du coup conserver un anonymat, conserver ses caractéristiques sans avoir besoin de forcément les partager avec l'autre. Et ouais, c'est ça. Je pense que c'est dans l'idée de favoriser du coup l'hétérogénéité des populations, parce qu'on se rend compte que dans les quartiers aux populations homogènes, les individualités échangent une part de leurs caractéristiques subjectives, j'allais dire, alors que au sein d'un milieu hétérogène, au sein de la différence, on peut se permettre justement de garder un anonymat salvateur.
Peut-être juste un petit point. Je changerais peut-être le nom du principe, mais une suggestion de lecture, parce qu'on y a fait référence ici, qui me semble pouvoir être intéressante là, d'un point de vue d'un principe normatif qui va dans ce sens-là, c'est d'aller voir du côté de The Uses of Disorder de Richard Sennett.
Oui, oui, oui. Oui, justement, j'en ai pas parlé, mais oui, ça fait partie de...
Merci bien. J'avais trois questions dont Patrick a déjà posé la première. C'était une très bonne réponse. Alors, deuxièmement, en supposant que vous aviez une conception de la démocratie plus riche que le voting, c'est évident que vous l'avez, puis il y a déjà une présomption à une réponse positive à la question que vous avez posée. Mais il faut quand même comprendre que dans des départements de philosophie, politique, et, etc., la plus grande majorité des scolaires et des peuples en général pensent encore de la démocratie comme le voting, dans un sens schumpeterien. Et puis, il y a un certain... lié avec votre vue, c'est un projet de politique culturelle. Essayez de changer ça. Deuxièmement, c'est dommage que Clarisse ait été obligée de partir parce qu'elle a posé un défi à votre position et je me demande si vous avez des réponses à elle.
Justement, je n'ai pas pu assister à sa conférence hier, malheureusement. mais donc, je ne pourrais pas...
Oui, d'accord.
Je ne pourrais pas vous répondre là-dessus. Mais effectivement, oui, c'est, C'est ça, c'est une vision culturelle de la démocratie. Donc, justement, j'ai, au départ, quand j'ai travaillé sur cette question, j'étais un peu prise avec tous ces problèmes de démocratie institutionnelle, de démocratie participative, etc. J'ai décidé, justement, de pas me porter là-dessus, de ne pas me pencher sur ces questions-là pour l'instant, parce que je pense que je n'ai pas assez de bagages pour pouvoir y répondre vraiment. Mais l'idée, ça serait d'abord de démontrer qu'on peut expérimenter une démocratie au sens donc, très large, au sens matériel et à la fois intellectuel, etc. Et à partir de cette expérience de la démocratie qui se fait dans l'espace public, effectivement, peut-être que ça pourrait légitimer une participation démocratique, mais je ne sais pas encore qu'est-ce que j'entends par là exactement. Donc voilà, ce sera mon travail plus tard.
Ma question était un peu la deuxième ou la troisième question de Frank concernant la conférence de Clarissa. Mais comme j'ai le micro, je crois qu'il y a eu plusieurs indications au cours du colloque, venant particulièrement de la conférence de Clarissa, mais je pense que c'est sorti d'autres conférences, qu'on a peut-être une vision démocratiquement idéalisée de la ville et qui rejoint quelque chose, un échange que j'ai eu tout à l'heure là, avec le dernier conférencier, à l'effet que, en philosophie, on a parfois tendance à se livrer à ce qu'on pourrait appeler là, de la sociologie normative, c'est-à-dire on invoque les faits comme on pense qu'ils devraient être plutôt que comme ils sont. Et donc, je me demandais s'il y a quelque chose comme... On aimerait bien que la ville soit le lieu de toutes les choses que tu as mentionnées, mais est-ce que tu as l'impression que les données à cet effet sont probantes? Et sinon, est-ce qu'il y a des choses, des aménagements à la ville qu'on pourrait apporter qui feraient de sorte que peut-être la ville ait plus de chances d'atteindre les objectifs que tu vises, tenant compte d'une remarque... qui a également été faite, je pense, par moi, ce qui ne veut pas dire qu'elle était nécessairement bonne, en échange avec Nick Luca, à l'effet qu'il faut faire attention avant de penser qu'on peut, de haut, par l'aménagement qu'on fait des places, hein, quelque chose comme ça, favoriser par une politique délibérée les échanges citoyens. Hein, et une spontanéité, là, je ne peux que réitérer la remarque de Patrick, c'est-à-dire de lire le livre de The Uses of Disorder, qui est vraiment, je crois, très important à cet effet. Les citoyens ont un moyen de contourner les objectifs des planeurs, à la fois en rendant des lieux qu'on pourrait penser complètement inappropriés à l'échange public appropriés, et l'inverse, c'est-à-dire des lieux qui leur sont donnés, voici citoyens, soyez publics ensemble dans ces lieux, à les bouder complètement, comme la place Gamelin, dont on avait parlé également. Donc c'est plus un fatras de réflexion qu'une question bien précise. Là, mais,
Non, mais oui, c'est effectivement le problème d'une théorie idéale, normative. C'est-à-dire que, effectivement, moi je pars des conditions matérielles les plus épurées de la ville, qui donc impose aux citadins d'interagir dans un espace qui est public par définition, qui leur est accessible, et voilà, dans lequel normalement ils n'auraient pas d'intérêt privé. Parcourir cet espace. Bon, ça, ça peut être idéal, ça peut être utopique, mais le problème, c'est que, enfin, c'est fondé justement dans le fait de la ville, dans la construction. On a la ville construit un type d'espace qui est particulier dans le sens où il est proprement politique, cet espace public. Mais je comprends que ça soit vu comme une théorie peut-être utopiste ou trop idéale, normative, mais je pense que c'est véritablement inscrit dans les faits. Je pense que les villes telles qu'elles évoluent, la dynamique propre aux villes contemporaines n'est pas anodine. Ça reflète aussi une certaine pratique du politique tel que je l'entends comme phénomène qui traverse toutes les formes de société. Je pense que c'est pas un hasard, ce ne sont pas non plus des externalités à un processus qui serait uniquement économique ou uniquement social. C'est une théorie idéale, certes. C'est-à-dire que, bon, effectivement, dans la rue, on n'entretient pas des relations démocratiques avec... Quoique je me pose la question, quand je sors du métro, ça me hante un peu, quand je traverse la rue. Mais non, on n'entretient pas des relations démocratiques, ou du moins, on n'en a pas conscience. Mais... je pense que justement, ça pourrait servir de principe théorique, de principe normatif à des questions d'urbanisme. Voilà.
Je suis un peu troublé par. C'est une question plutôt d'interprétation de la théorie d'Iris Marion Young. Mais si, ça me donne l'opportunité de présenter une question normative. Je pense que c'est précisément sur cette question de la démocratie ou de la confrontation de la différence, même pas seulement la confrontation de la différence, mais l'acceptation de la différence en un certain sens plus actif, où je trouve un certain perfectionnisme, pas cosmopolite, mais peut-être urbopolite, je ne sais pas comment le dire, mais un niveau d'acceptation de la différence et d'engagement démocratique que je trouve trop un peu troublant parce que ça demande trop de l'individu dans la ville. La plupart de fois, par exemple, bon, je prends l'exemple dont je parlais hier, je veux vivre une certaine vie dans l'académie urbaine sophistiquée, boire du cognac, parler de Platon jusqu'à 3 heures du matin, aller dans un restaurant ethnique différent chaque jour. Alors, ça ne veut pas dire que je veux, que j'embrasse, que j'aime beaucoup les punks dans le plateau, j'ai vu hier, ou toutes les autres choses qu'on voit dans la ville, mais je dois accepter que pour avoir cette vie que je veux avoir, que ce n'est pas une vie qui embrasse toutes les différences, toute la diversité de la ville, mais que a besoin des structures urbaines qui donnent nécessairement à une pluralité de façons de vie dont j'aime seulement une, mais quand même, je ne peux pas nier, c'est comme une contradiction pratique, plus ou moins qu'ancienne, si j'essaie de sortir de la diversité complètement, par exemple, en formant des murs autour de ma... de quartier universitaire ou en régulant tous les aspects différents de la ville. Et donc, je ne suis pas sûr si on a besoin de présenter l'acceptation de la différence et la démocratisation entre les citoyens de la ville comme un requérement si fort, ou si on peut voir un non-perfectionnisme qui accepte l'inévitabilité de la différence comme condition de vivre une vie bien plus paroquiale, mais qui a besoin des structures de la ville pour exister.
Ok, ouais, c'est effectivement une objection qui se vaut. Effectivement, je dis pas que à n'importe quel moment le citadin doit faire l'expérience de la différence, doit se confronter à l'autre. Effectivement. Le but, c'est pas de ramener toutes les identités partout dans la ville, dans tous les quartiers, etc. Mais il faut qu'il y ait une sorte de minimal, enfin un minima d'espace public qui soit quand même pensé de cette manière-là. Et c'est-à-dire que oui, effectivement, il y a une pluralité des façons de vivre dans la ville qui doit pouvoir exister, et les individus doivent avoir cette liberté-là de choisir le quartier où ils veulent vivre, de choisir aussi les populations, etc. Mais néanmoins, il faut quand même favoriser une ouverture de l'espace public, une ouverture de au moins certains espaces dans la ville pour que puisse se faire cette interaction-là. Mais c'est pour aussi pallier, enfin lutter contre le phénomène de regroupement et de cloisonnement des quartiers les uns sur les autres, qui font qu'une personne ne va pas sortir de son quartier parce qu'elle trouvera tous les services et tous les commerces dont elle a besoin sur place, même ses opportunités d'emploi, etc. Enfin, ces quartiers enclavés, favorisent justement l'exclusion sociale, favorisent la non-démocratie. Et au contraire, l'espace public ne doit pas être un espace privé, un espace qui est marqué identitairement, culturellement. Mais voilà, c'est un peu l'idée, ça, parce que je pourrais répondre à votre objection. Mais merci en tout cas.
C'est un projet très intéressant. Et j'ai appris beaucoup de choses. Can I say that? I learned a lot about myself. deux questions, le même sujet, une autre perspective, peut-être. Que pensez-vous des découvertes de Robert Putnam, que la diversité diminue la confiance générale et l'engagement des citoyens? Il constate que dans plusieurs pays, les États-Unis, mais aussi l'Angleterre, l'Australie, plus la diversité est aussi avec les gens votent moins, moins confiants, moins de parler de politique, et ont moins des amis. Première question. Deuxième question. Vous écrivez que, selon les faibles, la rationalité urbaine réduit la ville en fonction économique et marchande et impose aux individus une quotidienneté qui reproduit les inégalités sociales et les rapports du pouvoir. C'est vrai, oui. C'est la vérité fondamentale de la vie urbaine, je pense. And so if that's true, isn't Young's account just a little naive? It's
ah, OK. Deux questions. Je suis trop naïve en disant ça.
Young est trop naïve.
OK, yeah. Oui. OK, d'accord. OK. Comment est-ce que je pourrais répondre à ça? Non, je pense pas que la proposition de Young soit trop naïve. Comment dire? L'idée que voilà, il faudrait se confronter à la différence pour entretenir des relations justes, se confronter à l'autre, donner un droit aux minorités d'expression. Bon, c'est en fait, je me sers essentiellement de Young parce que pour son idée de vertu de la vie urbaine et du fait que cette confrontation à la différence se trouve effectivement dans le fait urbain. C'est ça que j'ai trouvé intéressant chez elle, c'est qu'elle part du fait comme base pour ensuite, à partir de ce fait-là, élaborer un idéal normatif. Et je ne pense pas que ça soit naïf, parce que la confrontation à l'autre, la confrontation à la différence, elle ne se fait pas de soi, elle n'est pas évidente. Au contraire, dans nos sociétés, on assiste plutôt à un mouvement de repli de soi, de protection de l'intimité, de protection du regard de l'autre. Donc je pense que non, je pense que c'est un vrai combat, j'allais dire, une bataille à mener pour que les individus apprennent à se voir et se coexister de manière corporelle, de manière physique. Voilà, ça c'est la première chose. Sinon, par rapport au fait que la diversité pourrait diminuer la confiance générale, justement, ça dépend de la manière dont l'espace qui promeut cette rencontre avec la différence est fait et construit. Il faut justement permettre une ouverture, une accessibilité qui soit en même temps pacifiée, c'est-à-dire Évidemment, si cette confrontation à l'autre, elle se fait uniquement dans des tout petits couloirs de métro où les personnes marchent très très vite parce qu'elles sont pressées, et justement il y a cette volonté de fuir le regard et le contact par rapport à l'autre parce qu'on est trop serré dans un espace trop réduit, là oui, effectivement, la confrontation à la diversité, elle est pernicieuse, elle favorise pas du tout la confiance générale. Donc oui, d'un côté, on pourrait dire que la diversité peut nuire à ce sentiment de citoyen. Mais je pense justement que ça dépend du design qui est fait pour cette confrontation à la différence. Et la confrontation à la différence, je pense qu'elle doit être pensée beaucoup plus quand on parle de l'urbanisme en ville, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est inconscient, c'est des mécanismes inconscients, c'est un inconscient collectif ou bon, subjectif, on pourrait en discuter, mais qui fait qu'on a de plus en plus de mal à se confronter à cette différence-là. Or, la ville impose une confrontation à la différence. Et c'est pour ça que je pense que non, c'est pas naïf d'un côté. Et de l'autre, il faut penser des espaces publics qui permettent à cette confrontation-là d'être plus pacifiée et d'être publique, d'être rendue vraiment publique.
Merci pour ta présentation. J'étais content de t'entendre. J'avais juste quelques remarques parce que je vais vraiment parler en géographe et mes remarques et mes questions vont rejoindre ce qui ont été dit précédemment. Notamment par l'usage de Young qui a été fait par des géographes. Et c'est vrai qu'en lisant ce que font des philosophes du politique, c'est vrai qu'il y a plutôt une démarche déductive. Et nous, en sciences sociales, et notamment en géographie, on est plutôt dans l'inductif. Et j'ai l'impression que Young fonctionne bien si on combine les deux. C'est-à-dire que si on part en même temps de cas concrets. Et du coup, j'avais plusieurs questions. La première question, c'était sur la vision de l'espace public, où l'individu, en même temps qu'il affirme son identité, accepte de s'en défaire un petit peu pour être capable d'accueillir l'identité de l'autre. C'est ce que j'en ai compris. Mais d'un autre côté, l'espace public, c'est aussi un espace de friction, de confrontation, de conflit, d'individus et de groupes. Et je vais prendre un exemple qui est l'exemple sur lequel je travaille, qui est l'exemple de la place du religieux dans l'espace public. Si on prend un exemple en France récent, l'interdiction de la burqa, par exemple, c'est un bon cas et je pense que ça pourrait être un bon exemple pour partir de ça, parce que c'est une question d'encadrement et de régulation de la différence qui est perçue comme une différence radicale et qu'on interdit et qui n'est pas dans un lieu anodin, c'est dans l'espace public. Donc là, je pense qu'il y a vraiment un point à questionner qui est vraiment très très fort, et ça marcherait pas juste pour la burqa. La burqa, c'est vraiment un exemple c'est très fort, mais il y a d'autres exemples. L'autre élément, c'est sur la question de la mixité. En France, c'est quelque chose qui est débattu à chaque élection, la question de la mixité sociale, qui est souvent en fait une mixité ethnique, mais qui ne se dit pas. Je te renvoie. Il y avait, dans les années 70, en géographie, en sociologie urbaine, il y avait un article très important de Chamboredon qui s'appelait « Proximité spatiale et distance sociale », où il montrait déjà que il ne suffit pas de mettre des gens en contact géographiquement ou physique pour qu'il y ait effectivement une interaction qui passe, quoi. Et finalement, moi, la question que je me posais, c'était est-ce que l'habitude de la différence conduit forcément à son acceptation, en fait. C'était ça. Et pour finir, le troisième point, c'était c'est une question, mais est-ce que tu pourrais définir ce que tu parles quand tu parles de sentiment démocratique? Qu'est-ce que tu entends? Parce que je sais ce que c'est qu'un sentiment de plaisir, un sentiment de haine, mais un sentiment démocratique, j'en ai jamais ressenti. Alors. Est-ce que tu pourrais juste le préciser? Merci.
Ok. Merci. Bon, déjà, oui, sur la vision dans l'espace public, donc la première question. Je pense pas que l'individu accepte d'accueillir l'identité de l'autre. Dans le sens où les individus restent des anonymes. Donc, par contre, il accepte que l'autre soit doté d'autant de droits d'usage de l'espace que lui. Ça, oui. Mais il n'y a pas un partage des identités, un partage des caractéristiques. Voilà, c'est un peu mon idée. Donc après, tu disais confrontation, régulation de la différence. Oui, par rapport à la burqa, etc. Oui.
Même l'exemple des prières dans la rue, dans le 18e arrondissement, il y a plein d'affaires qui ont été montrées par le Front National, avec cet usage de l'espace public par le religieux, qui est considéré au contraire comme le religieux, ce qui devrait être contraint dans un type d'espace particulier, qui là se donne à voir dans l'espace public.
Quelque chose de privé qui
revient. Ça donne à penser, quoi, surtout si...
Oui, mais c'est tout à fait ça. Après, là, ouais, justement, j'aimerais bien t'entendre là-dessus, parce que je pense que tu aurais plus d'éléments que moi. Mais je pense que l'interdiction de la burqa en France, c'est l'épiphénomène qui montre bien qu'il y a un problème de mixité sociale, qu'il y a un problème de relation avec cette... de relation à la différence, de relation à l'autre, à l'étranger, qui ne partage pas la culture et surtout les valeurs implicites de la République française. Donc effectivement, oui, ça rentre tout à fait dans le sujet. Sinon, est-ce que l'habitude de la différence conduit-elle forcément à l'acceptation de la différence? Voilà, c'est encore pour dire, tout dépend de... comment cette habitude de la différence est menée. Enfin, je pense que effectivement il y a un travail à faire en urbanisme pour que cette confrontation à la différence soit pas une confrontation dangereuse, soit une confrontation pacifiée en fait. Donc, par exemple, en créant des espaces beaucoup plus ouverts, en créant des trottoirs plus larges, en mettant des bancs et des bancs sur les places publiques qu'on puisse utiliser véritablement. Je pense que l'habitude, tout dépend de comment cette habitude de la différence est faite. Et si effectivement il y a une caractéristique identitaire qui se reflète majoritairement dans un quartier, là par contre on peut assister à des phénomènes d'exclusion, de rejet de l'autre, de peur de l'autre, etc. Et au contraire, la mixité, enfin c'est mon idée, la mixité favoriserait justement une acceptation de l'autre sous le prisme d'une égalité de droit à l'usage et d'accessibilité à l'espace. Mais oui, après il y aurait à penser justement comment se fait cette pacification de l'espace public. Sinon, qu'est-ce que c'est un sentiment démocratique? C'est l'excellente question. J'avais très peur que ça tombe là-dessus, justement. Mais j'y travaille. Et en fait, je pense que, voilà, on a pensé le sentiment patriotique beaucoup, le patriotisme, qui est un sentiment, un attachement fort à l'État, etc., à la nation. Donc ce serait la forme la plus exacerbée du sentiment politique pour moi. Et le sentiment démocratique citoyen, ce serait justement une interaction, une interaction pacifique entre les individus. Mais ça serait pas un sentiment dans le sens de sentiment de haine ou sentiment d'amour, etc. C'est un sentiment avec un sentiment plus dans l'ordre de la conviction ou de la conviction politique. Mais je travaille là-dessus. Merci.
Il nous reste à remercier Margot.